je vous invite à retrouver le premier livre. Jean-David nous a rappelé brièvement tout à l'heure son contenu dans le premier chapitre. Et puis là, on va regarder le deuxième chapitre. On va lire ce deuxième chapitre. On va lire ensemble Genèse chapitre 2 du verset 4. Au verset 23, on va garder le 24e verset du chapitre 2 pour une autre dimanche. On peut relire quand même le 24. Alors, Genèse chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Psychon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or, et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idikel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui, vis-à-vis quelqu'un qui lui corresponde. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair sur place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Alors, on avait vu, petit rappel de ce début de chapitre 4, on avait vu comment Dieu avait fait l'homme, et diffère un petit peu du premier chapitre, en ce sens que tout est, la création semble, de notre point de vue, donc, ici, centré sur l'homme. Tout est organisé autour de l'homme. On avait vu que l'homme n'est pas, bien sûr, le fruit du hasard, mais il avait été façonné à partir de la poussière, ce qui nous fait rappeler que nous ne sommes poussière, nous ne sommes pas grand-chose. Mais Dieu a pris le temps de nous façonner et de faire un chef-d'œuvre de l'homme. Il a placé l'homme dans un bel écrin de verdure, dans un jardin bien arrosé, Et là, il a poussé des plantes, etc. Et puis l'homme, il avait un travail, il devait s'occuper et garder le jardin. Et on a vu donc l'homme, que Dieu pourvoit aux besoins de l'homme à travers tous ses fruits. L'homme devait manger pour vivre, c'est pas quelque chose de nouveau. Dieu avait également laissé un commandement, sans donner d'explication, par rapport à un arbre qui se trouvait là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas donné d'explication à Adam, et on n'en a pas davantage d'explication, pourquoi il y avait cet arbre dans ce jardin. En tout cas, on avait remarqué que Dieu aimait l'homme, tellement il avait pris soin de lui, tellement il avait organisé tout son environnement, et que certainement ce commandement devait être une bonne chose, et qu'on n'avait pas l'intelligence pour comprendre pourquoi, mais on avait l'intelligence suffisante pour savoir ce qu'on devait faire. Et au verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La dernière fois, on avait passé toute notre réunion pour explorer un petit peu ce que la parole de Dieu dit par rapport à la solitude. Et dans notre société, la solitude fait des ravages. C'est pas bon du tout que l'homme soit seul. On avait remarqué à ce moment-là que ce n'était pas question de relation avec Dieu, puisque Adam n'avait pas de problème dans sa relation avec Dieu. On a trouvé d'autres passages dans la Bible également. On avait lu le psaume 142 où David n'avait pas de problème dans sa relation avec Dieu, mais il souffrait de ne pas avoir des personnes qui aiment l'Éternel comme lui, autour de lui. Et Adam souffre d'un besoin ici. On avait vu que l'Église était une réponse au problème de la solitude. Aujourd'hui, au 21e siècle, beaucoup de personnes sont isolées, mais dans l'Église, on peut trouver un petit peu de fraternité. Être isolé, être seul, c'est n'avoir personne à qui donner de l'amour et personne qui va nous donner son amour au niveau horizontal comme ça. Hein, l'homme, c'est une créature sociale. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la création de la femme du point de vue de Dieu. Alors, pourquoi Dieu a créé la femme? Ben, on l'a vu dans ce chapitre, hein, pour aider l'homme et pour pas qu'il soit seul. Les premières raisons sont là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner un vis-à-vis, quelqu'un qui lui corresponde. Et on voit que la femme est créée d'une façon différente de l'homme. Différente également des animaux, quelque chose à part. Hein. Il va prendre une côte de l'homme et au lieu de partir de la poussière, il va partir de cette côte et il va créer la femme et la présenter à l'homme. Alors, bien sûr, tout ce que Dieu fait est bien fait et c'était une réussite. Hein. Il y en a qui disent pour plaisanter que voilà, Adam, c'était le brouillon, et puis que Ève, c'était le propre. Quand les enfants font des devoirs à l'école, ils font des brouillons, et puis après, quand ils font le propre pour rendre à leur professeur. En tout cas, c'était quelqu'un qui correspondait parfaitement à Adam, puisqu'il a été très enthousiasmé de la découvrir. La femme créée pour répondre à un besoin chez l'homme, pour l'aider, pour pas qu'il soit seul. Il n'y a pas mention d'autre chose dans ce texte. Alors, vous avez peut-être entendu parler, en opposition à ce texte, de la théorie du genre. Qui est-ce qui a entendu parler de la théorie du genre? Pas grand monde. Ben, pourtant, elle existe, elle est là. Pas très ancienne, dans les années 80-90. Donc, il paraît que c'est parti de mouvements féministes qui ont développé des études visant à séparer le sexe biologique, ce qui fait que biologiquement, on est un homme et une femme, et le genre féminin ou masculin. ça peut être, vous voyez ça comme deux choses différentes. Il y a le féminin et le masculin, et il y a l'homme et la femme, le sexe homme et le sexe femme, et les deux ne sont pas forcément liés. Donc d'après cette théorie, lorsque l'on naît, on hérite d'un sexe biologique, et on devient féminin ou masculin suivant la culture dans laquelle on vit, suivant l'éducation qu'on reçoit, suivant la société qui nous entoure. Ah ben, le petit garçon va être orienté vers le genre masculin, et la petite fille va être orientée vers le genre féminin, et c'est quelque chose que la société décide. Ce n'est pas quelque chose au départ, c'est quelque chose qui est tout à fait neutre. Je ne sais pas si vous connaissez Simone de Beauvoir, mais elle a écrit un livre qui s'appelle Le deuxième sexe, je crois. En tout cas, elle a cité cette phrase célèbre: on ne n'est pas femme, on le devient. On ne n'est pas femme, on le devient. À l'époque, c'était dans les années 40-50, là, ça avait soulevé un tollé, bien sûr, cette affirmation-là. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est rentré progressivement dans notre société. L'épanouissement, le vrai épanouissement de l'homme et de la femme, d'après cette théorie, passerait donc par la liberté de choisir son genre féminin ou masculin et ne pas se le voir imposé par la société. Alors, on trouve bien sûr des scientifiques qui pensent une chose, qui pensent l'autre. Il y en a qui disent quand même ces choses-là sont inscrites dans les gènes dès la conception de l'enfant. Et d'autres qui disent, comme l'enfant, quand il naît, il n'est pas encore tout à fait fini de se construire, c'est les parents qui vont avoir une très grande influence sur lui pour le destiner à être féminin ou pour le destiner à être masculin. Pas beaucoup de secours à attendre de ce côté-là. La communauté homosexuelle, en tout cas, a été très contente de cette nouvelle approche du genre, parce que ça correspondait à quelque chose qui était bon pour eux. On allait cesser de les voir comme des personnes qui étaient plutôt des personnes qui avaient une maladie. Donc, ils se sont saisis de cela. Et un des résultats visibles aujourd'hui, vous savez, c'est le mariage pour tous. Hein, c'est un des fruits, entre autres, de cette théorie. Et les programmes de l'éducation nationale sont en passe d'être révisés, du moins il y a une forte volonté pour réviser et pour que de la colle primaire jusqu'à l'université, la théorie du genre soit introduite partout. Donc ça va être encore un autre bouleversement, sans doute, pour notre société. C'est dans les tiroirs, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, on verra bien. On a la théorie du genre, et on a également à côté d'autres, dans le monde, d'autres personnes qui réfléchissent. Il y en a personnes qui ont réfléchi beaucoup pour les problèmes des couples qui se séparent, mais comment ça se fait? Comment on peut aider les gens à vivre harmonieusement leur vie de couple. Alors, il y a là aussi toutes sortes d'études qui ont été faites, etc. Il y a un monsieur que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui s'appelait John Gray, qui a écrit un livre assez célèbre, hein, il a été célèbre dans le monde entier, il paraît. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, dont un spectacle a été tiré. Ici, donc c'était américain, mais il y a un spectacle français que vous avez peut-être vu, et qui se plaît à souligner les différences fondamentales qu'il y a entre les hommes et les femmes, au-delà de leur apparence physique, au-delà de leur sexe biologique. Il y a de réelles différences de fonctionnement. Un homme et une femme ne pensent pas, ne réfléchissent pas, ne perçoivent pas les choses de la même manière. Et donc, il y a ce spectacle très humoristique que peut-être vous avez vu. À côté de cela, il y a de malaise dans la société. Junior m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps un chanteur qui s'appelait Stromae, avec une chanson qu'il avait fait, Papa Outé. Papa Outé, vous n'avez jamais entendu Papa Outé? Papa Outé. Et dans cette chanson, donc, ce chanteur contemporain, il dit, tout le monde sait comment on fait les bébés, mais personne ne sait comment on fait les papas. Et c'est hélas une triste vérité. Dès l'école primaire, on apprend aux enfants comment on fait les bébés. Là, ils savent, connaissent la sexualité, mais ils ne savent pas du tout, après, mais comment on devient un homme, comment on devient papa. Ça, c'est pas appris dans nos écoles. Et donc, il y a ce grand malaise, des choses très contradictoires dans notre société, comme on dit. Il y a à boire et il y a à manger. Alors, vous ne connaissez pas peut-être Simone de Beauvoir, vous ne connaissez pas peut-être John Gray, vous ne connaissez pas peut-être Stromae. Ce n'est pas finalement très important de connaître cela. Ce qui est important de connaître, c'est la parole de Dieu. On l'a vu, cet évangile qui est enraciné pour nous, dont sa crédibilité est enracinée tout entière dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, où Dieu a signé l'authenticité de son message et de sa parole. Jésus-Christ a reçu et a porté devant nous l'ensemble de l'Ancien Testament, donc ces textes-là. Et donc c'est quelque chose qui est authentique quand on croit en Jésus-Christ. On a dans le package tout l'Ancien Testament, selon les Écritures. Il est ressuscité. Qu'est-ce que donc nous allons pouvoir retenir de notre passage? Il ne faut pas avoir un arrière-plan, donc. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. On avait parlé de ça la dernière fois. Il les créa, mâle et femelle, homme et femme. Et donc, on avait, c'était rappelé, on avait étudié ça la dernière fois, enfin il y a quelques semaines, que l'homme et la femme sont image du Dieu trinitaire. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans ce faisant, il y avait le nous de la Trinité. Notre passage ce matin nous enseigne que la femme est différente de l'homme et l'homme est différent de la femme. Concrètement, ça se traduit pourquoi? Pour moi aujourd'hui, mon épouse est différente de moi. Elle est différente, elle ne va pas forcément penser comme moi, réfléchir comme moi. Elle va avoir d'autres points de vue, d'autres choses que je n'ai pas et dont j'ai besoin. Elle va être mon vis-à-vis et moi également, je suis son vis-à-vis à elle. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Cette différence revêt pour moi un grand mystère. Hein. On a vu que l'homme dormait quand Dieu a fait la femme. Et je m'interroge toujours quand mon épouse à côté de moi, comment elle est. Elle a un côté mystérieux que je n'arrive jamais à saisir complètement. Les différences sont mystérieuses, mais elles sont bien réelles. Pourquoi Dieu a pris une côte? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est là pour combler la solitude et pour une coopération fructueuse dans les activités. Ceci, ça passe dans la façon dont le présente la parole de Dieu. Avant la sexualité, avant la procréation, il y a un homme qui était seul et qui avait besoin d'aide et qui avait besoin d'avoir un vis-à-vis. On peut retenir également que nous n'avons pas vocation à être homme et femme. Un homme, normalement, en a assez en ce qui concerne l'homme et la femme, en a assez en ce qui concerne la femme. C'est pas du tout dans le plan de Dieu. C'est pas, faut pas tout faire. Faut pas que un homme se pense qu'il peut être à la fois homme et femme, ou une femme être à la fois remplir le rôle de l'homme et de la femme. J'avais une voisine ancienne quand j'étais adolescent qui disait, quand elle voyait ce bouleversement de la société, quand même c'est dommage maintenant, les hommes ils font des choses que les femmes faisaient avant et les femmes font des choses que les hommes faisaient avant, c'est dommage, ils vont avoir moins besoin l'un de l'autre. C'était une dame qui était très gentille, qui attesta, ils vont moins avoir besoin l'un de l'autre à chercher à tout faire. En tout cas, en ce qui concerne l'éducation de nos enfants et par rapport à ce qu'on a vu avec cette théorie du genre, c'est sûr que la façon dont on présente la parole de Dieu, il y a des différences réelles entre l'homme et la femme, et ce qui est sage pour des parents, je pense, c'est de préparer leurs enfants à la charge qu'ils auront à porter plus tard, que ce soit une charge masculine, que ce soit une charge féminine, c'est bien de les préparer en fonction de ce que Dieu avait prévu. Et normalement, tout ça se fait très naturellement. Nous vivons dans une société qui devient de plus en plus compliquée et la lisibilité sera de plus en plus difficile. Mais dans la parole de Dieu, nous avons des repères sûrs et solides. La théorie du genre s'oppose frontalement à la parole de Dieu, comme s'opposait frontalement à son époque la théorie de l'évolution des espèces, de la sélection naturelle et du hasard pour expliquer la venue et la diversité de la vie sur Terre, et de la même manière donc la théorie du genre s'oppose à la pensée de Dieu qui est révélée ici dans sa parole. Les fruits de la théorie de l'évolution, on les a vus que plus tard, quand on a vu tous les dégâts qu'il y a eu, les nombres de guerres qu'il y a eu au XXe siècle, avec les histoires basées sur le racisme, sur des hommes qui seraient supérieurs aux autres parce qu'ils seraient plus évolués, etc. Combien cela a fait des ravages sur notre terre. Et on ne connaît pas encore tout à fait les résultats que donnera la théorie du genre, mais nous allons être sans doute aux premières loges pour regarder tout ça. En tout cas, nous ne nous décourageons pas et regardons maintenant pour trouver de la joie quand même dans ce passage. Et si on regarde le point de vue de Adam maintenant sur la création de la femme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde, un vis-à-vis, qui soit semblable à lui. Alors on voit Dieu qui crée tous les animaux, qui les fait venir devant l'homme, et les animaux défilent, et l'homme a un nouveau travail ici, leur donner un nom. Alors c'était toute une responsabilité, tout un travail que Dieu avait délégué à l'homme, autant d'animaux, autant de noms à trouver. Et on sait que les espèces vivantes, il y en a beaucoup. Et l'homme devait avoir beaucoup de travail, il ne devait pas s'ennuyer du tout de voir défiler, ah ben voilà l'éléphant, ben on l'appellera l'éléphant, et il envoyait un autre, et il envoyait un autre, et chaque fois, il lui trouvait des noms, c'était magnifique, mais à travers tout ce travail, l'homme, il se sentait toujours aussi seul, personne qui lui corresponde vraiment. Et je le rappelle, c'est pas un problème pour Adam, c'était pas un problème de sa relation avec Dieu, c'était un problème de manque qu'il avait de pouvoir communiquer avec un vis-à-vis. Alors Adam va s'endormir et à son réveil Dieu amène la femme et la présente à l'homme, et là l'homme est emballé. Le texte et Hébreu souligne l'enthousiasme de l'homme quand il découvre Adam, enfin, le vis-à-vis dont il avait besoin, il est là devant lui. Et alors il lui donne un nom, vous savez, peut-être, sans doute, lui il s'appelle Ish, l'homme, et la femme, donc il va la baptiser Isha. Il va lui donner son propre nom, son propre nom. Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Isha parce qu'elle a été tirée de Ish. Alors, souvenons-nous ici que c'est Dieu qui a présenté Ève à Adam. C'est l'initiative est venue de Dieu. C'est lui qui a organisé toutes les choses. On remarque aussi que Dieu n'a pas présenté Ève tout de suite. Il a d'abord fait défiler tous les animaux, comme si Adam devait bien se rendre compte que vraiment de quoi il avait besoin. Alors il fallait que tous ces animaux défilent devant lui, les grands, les petits. On a vu que la dernière fois, la zoothérapie, c'est-à-dire une façon de lutter contre la solitude pour les hommes au 21e siècle, certains spécialistes conseillent d'avoir des animaux domestiques, des animaux familiers, ça tient compagnie, ça fait du bien et ça évite tous les maux qui sont engendrés par la solitude. On avait vu la semaine dernière toute une liste de problèmes que les médecins ont soulignés et qui apparaissent suite à la solitude de l'homme ou de la femme. Et donc, c'est quand même pas ce dont Adam a besoin. Il a besoin d'autre chose et Dieu donc l'a préparé à vraiment recevoir ce que Dieu avait prévu pour lui. Alors, que retenir pour nous aujourd'hui? Que peut retenir le jeune Adam ou la jeune Ève parmi nous? Parce qu'il n'y a pas de jardin d'Éden, il n'y a pas de choses à cultiver, il n'y a pas d'animaux à donner des noms, le travail est déjà fait. Je crois que c'est quand même important, peut-être on peut tirer pour le jeune homme, on peut tirer de cet enseignement ici, mais quelle est ma mission ici-bas? Je suis sur la terre pour faire quoi finalement? Qu'est-ce que Dieu a prévu comme activité pour moi? C'est une bonne question qui est peut-être utile que le jeune homme se pose. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi de faire quoi ici-bas? Pour mieux lui faire comprendre l'aide dont il a besoin. Et également peut-être un autre enseignement dont on peut tirer aujourd'hui pour ce passage, que Dieu l'homme puisse comprendre la solitude. C'est quelque chose qui sera sans doute utile pour lui que de comprendre sa solitude pour pouvoir après bien accepter et bien recevoir la femme que Dieu va lui présenter, puisqu'on voit que c'est Dieu qui présente Ève. Le jeune homme pourra également se souvenir que cette femme, elle porte l'image de Dieu. Comme lui, elle porte l'image de Dieu. Alors, certainement, le côté esthétique doit jouer également dans notre passage. On voit que Adam est très content. Mais, je répète encore une fois, le cheminement de la pensée de Dieu était un petit peu différent. Alors que ça puisse nous aider et nous inspirer ce matin. Bon, c'est pas tout le monde qui se marie, c'est pas tout le monde qui cherche une épouse. Alors, on voit que l'apôtre Paul, bien plus tard, va dire que Dieu donne des dons, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on peut comprendre que Dieu, des fois, donne des dons à des hommes qui font qu'ils n'ont pas ce vide. Ce besoin de solitude, ils ne vont pas le ressentir pour avoir le besoin de se marier. Peut-être, hein. Il ne faut pas faire rentrer les choses dans des cadres qui soient trop étroits. Et pour la jeune Ève, bon, on n'a pas de jeune Ève parmi nous ce matin, j'ai été créé, elle peut se dire, pour aider un homme. J'ai été créé pour aider quelqu'un qui est seul et quelqu'un qui a besoin de mon aide. Et c'est peut-être là aussi une façon d'aborder le mariage, mais est-ce que ce jeune homme, je peux lui apporter quelque chose? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce qu'il lui manque quelque chose que moi, je peux lui apporter? Ça peut être une autre façon d'aborder la relation Et la vie de couple, la société nous présente beaucoup l'aspect esthétique, l'aspect physique. Est-ce qu'il me plaît? Est-ce qu'il a tous, il répond à tous les critères que je me suis fixé? Et il y a un autre critère ici que nous propose la parole de Dieu ce matin. Est-ce que je vais pouvoir lui être une aide? Est-ce que je vais pouvoir faire qu'il sera plus seul, ce jeune homme? Et se rappeler également que ce jeune homme, comme elle, est porteur de l'image de Dieu. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là ce matin. Je vous laisse sur ces quelques pensées. Une prochaine fois, on regardera le verset qui suit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Bon, on ne peut pas. Il faut réserver tout un message rien que pour ce verset, parce que c'est un verset qu'on retrouve une multitude de fois dans la parole de Dieu. Et il y a des choses très intéressantes ici dans son contexte. Donc on va garder ça pour une autre fois. Alors souvenons-nous des différences qu'il y a entre l'homme et la femme. Souvenons-nous que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et ne soyons pas découragés s'il y a des difficultés des fois dans la vie de couple, s'il y a des difficultés pour rencontrer un conjoint. Ce sont des choses qui sont des vrais problèmes très très concrets. On l'a rappelé encore tout à l'heure dans les prières. Alors nous avons ce beau texte du commencement, comment Dieu voit les choses lui. De son côté. On peut tirer toutes les instructions. On va prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'enseignement qu'elle nous donne, qui est différent de ce que nous apporte notre culture maintenant, notre société, qui marche dans des voies et des pensées qui sont différentes. Merci pour cette parole qui est la vérité. Et aide-nous, Seigneur, à puiser dans elle les ressources dont nous avons besoin pour comprendre le monde qui nous entoure, pour comprendre notre place dans ce monde et comprendre la façon dont tu as prévu que nous nous épanouissions. Seigneur, merci pour, encore une fois, pour l'Église qui est là et qui comble à sa façon la solitude de beaucoup d'entre nous, Seigneur. Merci de nous aider à être encore une fois ces vis-à-vis pour les personnes qui sont seules dans l'Église, pour sa diversité, pour la façon dont nous pouvons trouver à nos frères et nos sœurs d'autres points de vue, d'autres façons de comprendre, de réfléchir, d'autres cultures, d'autres horizons, Seigneur. Et merci que tu ne veux pas que l'homme soit seul, tu n'as pas prévu ça pour lui. Nous te prions également pour tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, Seigneur, pour qu'ils puissent trouver dans ta parole et l'éclairage dont ils ont besoin par rapport à leur projet, par rapport à ce vide, cette solitude qui peut apparaître, Seigneur, dans leur vie. Merci également parce que tu as pourvu dans l'homme, dans la femme, et que tu as fait, Seigneur, un homme et une femme qui étaient beaux, Seigneur, et ceci est aussi tout à ta gloire. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.